Bonjour Monsieur le Préfet.
Bonjour Madame.
Merci de nous recevoir ici en la préfecture de Tarbes. On va parler aujourd'hui sécurité avec ce plan Vigipirate renforcé qui est déployé depuis le vendredi 13, depuis l'assassinat de cet enseignant à Arras et puis avec les attentats aussi qui ont eu lieu à Bruxelles ce lundi. Avant de voir comment ce plan Vigipirate se déploie ici chez nous dans les Hautes-Pyrénées, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les termes qu'on entend en boucle depuis 6 jours, les fichiers S, les fichiers SRPRT, le fichier FPR. Qui sont les personnes qui sont derrière ces fichiers? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères qui définissent qu'une personne est fichée S ou pas? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Alors je vais essayer de vous éclairer un tout petit peu, mais le principe d'un fichier, c'est d'intégrer des personnes qui font l'objet d'un suivi particulier et sur lequel on a une vigilance renforcée. Donc en fonction des fichiers, si on prend le FSPRT, c'est les personnes radicalisées en lien avec la mouvance terroriste, on a des fichiers sur les délinquants sexuels, on a des fichiers sur liés au code de la route, au permis de conduire. Donc tous ces fichiers-là permettent d'alimenter et sont contrôlés régulièrement par des contrôles croisés pour vérifier que les personnes qu'on a identifiées y apparaissent ou n'y apparaissent pas, ou y sont inscrites parce qu'on a besoin de renforcer notre vigilance sur ces sujets-là.
Toutes ces personnes fichées ne sont pas nécessairement des terroristes ou de potentiels terroristes.
Toutes ne sont pas de potentiels terroristes, ça dépend du fichier dans lequel elles sont. En tout cas, il y a une vigilance puisque la plus grande difficulté pour nous, c'est d'identifier le moment du passage à l'acte. On peut avoir des gens qui consultent des fichiers en lien avec le terrorisme islamiste, on a des gens qui le font par fragilité psychologique, mais il faut qu'on soit le plus près possible, sachant que c'est quelque chose d'infime, ce moment du passage à l'acte, la bascule, pour être capable, le moment venu, d'intervenir le plus rapidement possible, comme on l'a vu à Arras, où la police locale est intervenue en moins de 4 minutes.
C'est-à-dire qu'au fait, vous veillez aux petits signaux de radicalisation qui peuvent donner suite à un passage à l'acte.
En fait, dans le jargon, on appelle ça les signaux faibles. Donc c'est de regarder tous ces petits détails. Ça peut être par exemple, en lien avec l'actualité, un élève qui refuse de faire la minute de silence et le dit ouvertement. On va regarder pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'est une manifestation d'un adolescent rebelle, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond en lien avec la famille, en lien avec un communautarisme religieux? Et à ce moment-là, on va fouiller. Voilà, ça c'est un signal faible. Le signal faible, ça peut être quelqu'un qu'on regardait, qu'on suivait, puis que tout d'un coup s'inscrit dans un club de tir ou va acheter des couteaux. Voilà, c'est ce type de choses auxquelles on est vigilant.
Aujourd'hui, vous, en tant que préfet, vous savez si dans notre territoire, dans les Hautes-Pyrénées, il y a ce genre de profil. Vous en savez le nom, vous savez qui elles sont. Les maires, eux, ne le savent pas. Pourquoi les maires ne savent pas? Pourquoi, par exemple, le maire de Tarbes ne sait pas si sur sa commune, il y a des personnes qui sont fichées S?
Aujourd'hui, ces fichiers sont limités d'accès au regard des données qu'elles contiennent. C'est un peu comme le principe du secret défense, c'est-à-dire qu'il faut être habilité et avoir le besoin d'en connaître. Donc aujourd'hui, je connais effectivement les noms de ceux qui sont fichés pour le département, mais ça ne m'est pas transmis tous les jours, c'est à la demande. Et nous validons en lien avec le procureur de la République ceux qui y sont inscrits.
Le plan Vigipirate renforcé, ça veut dire que vous êtes encore plus vigilant dans le suivi de ces personnes-là, ou le plan Vigipirate renforcé, c'est vraiment une surveillance renforcée pour les citoyens?
Alors le plan Vigipirate à son niveau urgence attentat tel qu'il a été positionné depuis le 13 octobre conduit à remettre en place ou à rappeler un certain nombre de mesures et à élever le niveau de vigilance sur des établissements sensibles, donc les établissements scolaires, les établissements de culte. Après, sur ces personnes-là, de toute façon, on les suit. Donc aujourd'hui, pas moins, pas plus, on ressort, on vérifie qu'on est à jour. Mais ces personnes-là aujourd'hui font l'objet d'une réunion quasiment toutes les semaines à la préfecture où on redétaille, on les descend une par une, on vérifie que pour celles qui sont suivies par exemple pour des soins psychiatriques, on vérifie qu'elles suivent, qu'elles vont en consultation ou pas. C'est un suivi très très fin qui n'est pas diminué au cours de l'année, quel que soit le niveau du plan Vigipirate. Et aujourd'hui, on a une attention particulière, on a vérifié qu'on les avait bien toutes sous la main, mais c'est le cas.
Alors, justement, en parlant de sécurité, on sent bien que l'enjeu pour le gouvernement, c'est à la fois de renforcer la sécurité, la vigilance, tout en évitant un mouvement de panique et un climat anxiogène. Concrètement, comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons pour commencer l'exemple des écoles. 261 établissements scolaires dans les Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire des écoles, des collèges, des lycées. Qu'est-ce que ça change concrètement, un plan Vigipirate renforcé pour les élèves, pour les équipes pédagogiques et puis même pour les parents ?
Alors, ayons à l'esprit que ce que veulent les terroristes, c'est de nous faire peur. C'est le principe. Donc, il ne faut surtout pas céder à ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mesures, on propose des mesures qui sont adaptées. Ce n'est pas créer un vent de panique. Je pense que la solution aujourd'hui à l'attentat, ce n'est pas d'arrêter de vivre en se cloisonnant chez nous, en se disant « comme ça, il ne nous arrivera rien ». Donc aujourd'hui, la vie continue. On a eu un état-major de sécurité dédié à la rentrée des classes. Ça a lieu tous les ans. Alors ça passe inaperçu les autres années, mais tous les ans, début octobre, on a un état-major de sécurité avec l'inspectrice d'académie. On l'a eu cette année. Le message qu'on passe aujourd'hui, typiquement dans le milieu scolaire, c'est la vigilance plus. C'est-à-dire le professeur qui a un de ses élèves qui a fait une remarque déplacée en cours d'histoire, qui a un comportement un peu particulier, qui change de tenue vestimentaire entre le moment où il est sur la voie publique et le moment où il entre dans l'établissement. Parfois, on ne le signale pas en disant « bon, c'est un trait de jeunesse, c'est pas très grave, c'est sa liberté ». C'est effectivement sa liberté, mais ça nécessite de le signaler. C'est les insultes. On a encore un proviseur qui a fait l'objet d'insultes téléphoniques. Il a porté plainte. On a une vigilance particulière sur ces profils-là. Donc l'objectif, c'est de répéter sans cesse. Et plus on va s'éloigner du dernier attentat, plus, et c'est naturel, la vigilance va avoir tendance à baisser. Donc notre travail, c'est en permanence de le rappeler. Vous évoquiez tout à l'heure le sanctuaire de Lourdes. Aujourd'hui, on y est régulièrement. L'idée, ce n'est pas de transformer le sanctuaire en Fort Knox avec des contrôles inappropriés. L'objectif, c'est d'avoir une vraie vigilance, de se dire, cette personne-là, par son comportement sur le sanctuaire, il y a quelque chose qui ne va pas, et le signaler immédiatement pour que les forces de sécurité puissent intervenir de manière préventive.
Alors, on va revenir sur le sanctuaire de Lourdes. Avant cela, pour terminer avec les écoles, est-ce qu'aux abords aussi des écoles, le plan Vigipirate renforcé prévoit un déploiement de moyens supplémentaires ou différents pour que les abords des écoles, de certaines écoles, soient plus dégagés qu'ils ne le sont actuellement?
Alors, il y a deux grandes mesures visibles aux abords des écoles. La première, que les gens ont un peu oubliée, c'est qu'on limite les attroupements. C'est jamais très bon d'avoir plein d'élèves groupés au même endroit devant l'école. Alors c'est aussi parfois contradictoire avec des mesures quand ils sortent, même si c'est pas bien, fumer leurs cigarettes sur le trottoir.
Mais ça paraît un peu inévitable quand ils sortent tous.
Voilà, donc ça c'est un point qu'il faut quand même gérer. Et donc c'est d'éviter cette agglomération d'élèves. Et la deuxième chose, j'ai demandé un renforcement des patrouilles de police et de gendarmerie, donc y compris dans nos zones rurales. Aujourd'hui, on organise nos effectifs de police et de gendarmerie pour être présents dans les principaux mouvements d'élèves aux abords des établissements du département. Donc avec plus de 260 établissements scolaires, ça nécessite quand même une bonne articulation de nos ressources.
Ça veut dire donc des rondes, une présence vraiment sur le terrain, y compris après les vacances de la Toussaint?
Ah oui, tant que le plan Vigipirate Urgence Attentat sera à ce niveau-là, ce sera comme ça. Et même après, on maintiendra quand même ces patrouilles et cette vigilance. Donc normalement, les parents d'élèves à intervalles réguliers devraient voir des véhicules de gendarmerie ou de police à proximité des établissements scolaires de leurs enfants.
Parlons du sanctuaire de Lourdes. Les vacances de la Toussaint approchent, hein, dans 3 jours. On sait que ce week-end, déjà à Lourdes, il y a un événement important, le rassemblement Kérigma. Et puis, très vite, pendant les vacances, il y aura plusieurs grands pèlerinages. Entre 25 000 et 30 000 pèlerins sont attendus pour la fin du mois. Ensuite, l'Assemblée plénière des évêques de France au début du mois de novembre. Est-ce que ces points-là, sans compter tout l'afflux des touristes et des gens qui vont passer pendant les vacances, est-ce que ça vous oblige à mettre néanmoins une organisation différente? Est-ce que il va falloir que les pèlerins ou les personnes de passage changent un peu leurs habitudes pour un temps donné au sanctuaire de Lourdes?
Alors, nos relations avec le sanctuaire de Lourdes sont permanentes et on n'attend pas. Il y a de grands pèlerinages, de grands rassemblements qui nécessitent aussi un niveau de vigilance élevé en termes de sécurité, soit par le nombre de pèlerins accueillis, soit par la sensibilité des pèlerins accueillis. Les deux cas, les plus, on prend le pèlerinage national qui amène beaucoup de monde et puis le pèlerinage international, militaire international qui, cette année par exemple, accueillait la ministre des armées ukrainiennes. Donc ça nécessite quand même en permanence cette vigilance. Donc il y a une vraie culture pour le sanctuaire et pour la préfecture de suivi du sanctuaire. Donc, je ne nourris pas d'inquiétude particulière parce que je sais qu'on est entendu et que quand on s'adresse au recteur et au directeur du sanctuaire et qu'on demande une vigilance accrue, c'est suivi. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on va faire, qu'on va renforcer, c'est des patrouilles à proximité des accès et puis ce lien toujours très étroit et une réactivité la plus rapide possible en cas de signalement d'un comportement inadapté ou inhabituel sur le site ou à proximité du sanctuaire.
Au sanctuaire de Lourdes, il y a les moyens humains pour déployer cette vigilance. C'est peut-être un peu moins vrai dans certains lieux touristiques. Comment ça va se passer là pour cette période de vacances dans tous nos lieux touristiques ?
Alors, le sanctuaire de Lourdes dispose de moyens humains et de moyens techniques qui nous permettent de bien travailler sur tous les autres sites du département, et ils sont nombreux. On a fait des rappels, j'ai fait des rappels par écrit à tous les responsables pour leur dire, alors notamment les maires, qui sont mes premiers collaborateurs ou mes premiers relais avec qui on est en relation quotidienne, pour leur dire, voilà, dans votre commune, en fonction des événements, ayons une vigilance particulière. N'hésitez pas à appeler, ils ont des référents de sécurité, donc d'appeler à la gendarmerie locale la personne qui va pouvoir les conseiller en disant, peut-être qu'il faut, au regard du nombre de personnes, interdire le stationnement à proximité, mettre des blocs en béton pour privatiser la rue, mettre en place un agent de sécurité pour peut-être contrôler les sacs à l'entrée d'une manifestation. Après, on essaye d'avoir une réponse qui soit proportionnelle. Je dirais que la vigilance n'est peut-être pas la même pour une grande fête d'un village où il va y avoir 500 ou 1000 personnes et puis un loto avec 25 participants.
Un mot sur la vidéosurveillance qui est déployée de plus en plus. Alors, c'est le cas à Tarbes, c'est le cas aussi à Bagnères-de-Bigorre, par exemple. On voit pourtant que finalement la vidéosurveillance n'empêche pas le passage à l'acte d'un terroriste, puisque de toute façon il se moque d'être vu, d'être reconnu, c'est même peut-être ce qu'il cherche au fond. Est-ce que vous avez d'autres moyens? Quels sont-ils, vos moyens?
Alors d'abord, par principe, on ne révèle jamais tous nos moyens. Sur la vidéoprotection, et là c'est attesté, il y a un premier effet quand même, c'est que pour une partie de la délinquance, le fait de savoir qu'on est filmé limite le passage à l'acte ou conduit au passage à l'acte dans des zones qu'on espère non vidéoprotégées. Voilà. Quand il y a eu passage à l'acte, la vidéoprotection permet de matérialiser les faits. Donc ça facilite aussi le travail des services d'enquête. Sur le passage à l'acte d'un terroriste, de toute façon, s'il est motivé, il passera à l'acte. Vidéoprotection ou pas vidéoprotection. Donc là, on sera plus en réponse. Par contre, la vidéoprotection, quand elle est bien utilisée, c'est le cas, c'est-à-dire qu'elle est suivie avec un centre de vigilance, permet d'identifier une personne qui a un comportement suspect. Voilà, dans une foule, on le voit très bien à Lourdes, c'est assez frappant, on est régulièrement appelé sans que ce soit un facteur d'inquiétude particulier pour dire, tiens, il y a cette personne-là, elle a une attitude particulière, c'est nos pickpockets, typiquement. Si on est capable de déceler des pickpockets dans une foule de plusieurs milliers de personnes à Lourdes, on est aussi capable de distinguer quelqu'un qui ne semble pas préoccupé par le fait d'aller à la grotte ou d'aller se recueillir devant un cierge et qui erre avec un sac à dos. Peut-être qu'on interviendra de manière préventive.
Voilà. Vous avez assisté à la minute de silence dans un établissement scolaire ce lundi. Où est-ce que vous étiez ?
J'étais au lycée Théophile Gautier à Tarbes.
Est-ce que c'était pour vous l'occasion de vous adresser aux élèves ou aux équipes pédagogiques sur cette question de l'angoisse un petit peu que suscite toute cette actualité ?
Alors on a laissé la communauté enseignante en première ligne parce que ce sont les interlocuteurs des élèves. Donc je me suis contenté, mais enfin c'était une minute de silence chargée de sens. Mais j'ai juste échangé avec le proviseur du lycée Théophile Gautier et l'inspectrice d'académie. L'objectif, c'est que la communauté enseignante, dont les élèves sont familiers parce que c'est leurs interlocuteurs proches, passent les messages et permettent aussi aux élèves de verbaliser un peu leurs ressentis sur ce sujet, les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir et comment on les rassure et puis comment on les implique aussi dans les mesures de sécurité. Parce que c'est vrai que ça fait pas de mal de rappeler à un élève que on ne rentre pas dans un lycée comme on veut, on doit présenter sa carte ou son carnet de correspondance avant de pouvoir rentrer dans l'établissement et que ça nécessite d'arriver à l'heure.
C'est vrai aussi pour le grand public, cet appel à accepter ce que le plan Vigipirate renforcé change dans les petites habitudes. Vous lancez cet appel au grand public, aux citoyens ?
Alors, l'appel que je lance au grand public, c'est d'abord de cesser d'être naïf. Souvent, on intervient auprès de moi parce qu'on considère que les mesures qui sont prises par l'État seraient trop sévères, injustes, etc., notamment en matière de traitement de ce type de faits. Donc, il ne faut pas être naïf, il faut être vrai. Et je pense qu'il est important que la vigilance, surtout, elle est de signaler tout comportement suspect. Il ne faut pas vivre dans la peur de son voisin, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. On accueille une grande population étrangère dans le département, ne serait-ce que par le fait du sanctuaire, hein, qui brasse beaucoup de nationalités. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de ça. Il faut que les gens soient peut-être un peu plus vigilants. On le dit souvent dans les gares, de ne pas laisser traîner sa valise parce qu'on a tous peur qu'on perde 2 heures au déminage et que le train ne parte pas à l'heure. Mais c'est aussi cette vigilance-là, c'est de se dire ce comportement est inhabituel, cette personne a tenu des propos à côté de moi, ça m'inquiète un peu, je le signale, on lève le doute pour se dire qu'il n'y a rien, que c'était une mauvaise plaisanterie, ou on intervient pour préciser le renseignement en lien avec les services d'enquête. On a eu le cas au lycée Marie Curie à Tarbes d'une alerte à la bombe il y a quelques semaines. Avant les attentats, et bien vous voyez que même quand on a une alerte à la bombe avant les attentats, on évacue tout le monde, on fait passer des démineurs, des chiens, et on perd quasiment 3 ou 4 heures, mais c'est 4 heures qui permettent d'assurer que quand on remet les élèves en classe, on a écarté tout risque.
Vous nous dites donc, monsieur le préfet, qu'on est, on est capable de faire face à la menace terroriste.
On est prêt à faire face à la menace terroriste, on est prêt à y répondre, on est prêt à intervenir. Mais ça reste une menace, donc par construction, c'est une menace invisible sur laquelle il faut être vigilant.
Merci beaucoup, monsieur le préfet.
Je vous en prie.